L'intolérance alimentaire en question, chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique. François Geffrier sur Radio Classique.
La géopolitique avec Christian Macarian. Bonjour Christian.
Bonjour François.
C'est la principale information de ces dernières heures au plan international. L'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré. Il avait permis de faire sortir des ports ukrainiens une marchandise précieuse et même indispensable à l'équilibre de nombreux pays. Expiration cette nuit à minuit après des appels à une prolongation, mais des critiques du côté russe vis-à-vis de l'Ukraine. Reprenons les choses dans l'ordre. Christian, en quoi consistait cet accord ?
Cet accord a été signé le 22 juillet 2022 sous l'égide de la Turquie, mais soutenu fortement par les États-Unis et l'Europe, pour créer un couloir maritime afin d'acheminer les céréales ukrainiennes. Alors, il s'agissait principalement du maïs, mais aussi du blé, du tournesol, dont l'Ukraine est un très gros producteur. Ainsi, il ne faut pas les oublier, que les engrais nécessaires à l'agriculture, ce qui inclut par contre-coup l'ammoniac. L'ammoniac qui arrive par un pipeline de Russie, de la ville de Toliati. Et tout cela avait pour but de réduire les risques de famine dans le monde en garantissant même en temps de guerre la mise sur le marché des productions agricoles ukrainiennes. En un an, plus de 1080 navires ont transité, ont quitté les trois ports ukrainiens de Tchernomorsk, Odessa et Yuzhny Pivdeni. Jusqu'à aujourd'hui, cet accord céréalier a permis d'exporter 33 millions de tonnes de céréales. C'est un beau résultat. Mais voilà, la Russie conteste ces chiffres et prétend que seuls 3%, je dis bien 3%, disent les Russes, de ces 33 millions de tonnes ont été livrées aux pays pauvres. Et tout le reste a profité, bien sûr, dit la propagande russe, aux pays riches. Ces chiffres sont indiscutablement faux. Mais ils servent, encore une fois, une vision russe anti-occidentale qui, hélas, rencontre beaucoup d'échos dans les pays du Sud. Qu'en est-il en réalité ? En réalité, et objectivement, 51% du maïs ukrainien est allé aux pays du Sud et 64% du blé. Et le reste ? Eh bien, le reste, c'est vrai, mais ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les 3% dont se réclament les Russes. Le reste a été acheté par trois pays principalement, la Chine, qui profite des bas coûts, la Turquie, qui transforme le blé en farine et qui réalise ainsi un fructueux commerce en faisant de la plus-value, et puis l'Espagne, qui en a tout simplement besoin. Mais finalement, heureusement que tout cela est ainsi organisé, parce que les achats de la Chine, de la Turquie et de l'Espagne soutiennent aussi les cours mondiaux, sans quoi il y aurait une flambée des cours, ce qui évidemment ferait souffrir en priorité justement les pays du Sud.
Que cherchent vraiment les Russes dans cette affaire, Christian ?
Les Russes ne jouent pas le jeu, ils ont de tout autre objectif que d'épargner les pays les plus pauvres, évidemment. Ils cherchent tous les prétextes pour restreindre la portée de l'accord céréalier, car ils veulent avant tout atténuer les sanctions occidentales prises contre l'économie russe. Les Russes ont d'abord manipulé les délais, d'abord prévus pour être renouvelés tous les 4 mois, cet accord au mois de mars dernier, sous l'exigence des Russes, doit maintenant être renouvelé tous les 2 mois. Une manière pour la Russie de faire peser une sorte de suspense permanent.
C'est un CDD à répétition. Ouais.
Voilà, exactement. Et puis hier, évidemment, comme vous le disiez, cher François, la Russie s'est retirée temporairement, évidemment, s'est rétractée de cet accord et elle demande 2 choses principales. La levée des obstacles à l'exportation des engrais russes à cause des restrictions imposées aux transactions financières de la banque agricole russe, la fameuse Rosselhozbank. Moscou veut ainsi que le carcan bancaire soit desserré afin de pouvoir rejoindre le système de paiement international SWIFT.
Oui, c'est dont elle a été privée. Ouais.
Voilà, c'est une façon assez détournée d'utiliser l'arme alimentaire pour lever une partie des sanctions. C'est la preuve aussi, pour ceux qui en doutaient, que les sanctions marchent. Et enfin, la Russie demande la remise en service du pipeline d'ammoniac Toliati-Odessa.
Oui. Donc vous parliez, alors cet accord est-il vraiment caduc ? Vous nous parlez de négociations finalement en coulisses. Est-ce qu'il faut craindre, vous parliez d'armes alimentaires, la famine ?
Non, je ne crois pas, parce que en réalité, en dénonçant l'accord céréalier, les Russes ouvrent une négociation très serrée. En un an, par rapport à l'an dernier, au début de la guerre d'Ukraine, le contexte a complètement changé. Et les revers maritimes subis par la Russie, vous vous souvenez du naufrage du navire amiral Moskva, l'orgueil de la flotte russe, touché par des missiles ukrainiens, eh bien en un an, la Russie laisse apparaître qu'elle n'a plus du tout la même maîtrise de la mer Noire que l'an dernier, où elle était la souveraine des flots. En attaquant hier, ce qui n'est pas du tout un hasard, le pont de Kertch, les Ukrainiens ont envoyé un message très clair. Ils n'ont pas choisi cette date juste parce qu'elle était celle de la possibilité d'une attaque. C'était bien la date d'expiration de l'accord céréalier, parce qu'il s'agissait pour les Ukrainiens de démontrer que la Russie n'est plus invincible en mer Noire. La Russie va-t-elle donc bloquer le commerce des céréales comme elle l'a fait l'an dernier? Beaucoup d'indices permettent d'en douter, entre autres parce que justement la Russie a perdu de son pouvoir maritime. Il n'est pas du tout assuré que la marine russe se risque à nouveau à couler, comme elle l'a fait l'an dernier, assez bassement des navires, des cargos chargés de céréales, ni qu'elle impose un blocus des ports ukrainiens. Et d'ailleurs, la leçon est très claire. Zelensky, le président ukrainien lui-même, l'a proclamé hier. Je le cite, « Même sans la Russie, tout doit être fait pour que nous puissions utiliser le couloir pour les exportations en mer Noire. Nous n'avons pas peur. » Eh bien, maintenant, M. Zelensky est pris à son propre langage. Oui. Il faut que les Ukrainiens démontrent, avec l'aide de l'ONU et de la Turquie, qu'ils peuvent suppléer la carence russe et, à leur tour, organiser l'exportation de leur propre production de céréales. C'est tout l'enjeu de la discussion actuelle.
Christian Macarian pour La Géopolitique et ses coulisses. Merci beaucoup, Christian.